Ce livre, il est vraiment issu d'une rencontre avec un personnage, j'allais dire que je n'ai pas connu physiquement, mais une rencontre littéraire. C'est en fait en lisant la biographie de l'évêque de Münster, qui s'appelait Monseigneur von Galen, que j'ai découvert un petit peu un pan de cette histoire que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment l'image du fil et de la plotte. J'ai tiré sur le fil von Galen et j'ai découvert la baraque des prêtres de Dachau. Alors peut-être juste un mot sur Monseigneur von Galen, évêque de Münster, issu de l'aristocratie allemande la plus traditionnelle, pas tellement versé dans les idées démocrates, peu favorable à la République de Weimar. Et pourtant, c'est lui qui va en chair s'opposer vivement au plan d'euthanasie développé par les nazis et conduit par les nazis, le fameux plan T4. Et en pleine guerre, en chair, il va dénoncer ce plan T4 et Hitler va reculer. Hitler va annuler le plan T4. Il le remplacera malheureusement par un autre plan homicide tout aussi cruel mais clandestin. Mais si je ne me trompe pas, c'est la seule fois que Hitler reculera dans ses projets homicides durant toute la guerre, et ce sera du fait d'un évêque catholique allemand. De nombreux prêtres allemands se sont également opposés à l'euthanasie dans leurs paroisses, dans les bulletins paroissiaux, dans les activités de jeunesse, j'allais dire, dans les patronages, etc. Et beaucoup d'entre eux ont été conduits et incarcérés dans les camps, et à Dachau en particulier.
Alors, qui sont ces prêtres? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils internés dans des camps? Est-ce parce qu'ils sont catholiques, tout simplement, ou y a-t-il d'autres raisons qui entre en jeu?
Alors je pense qu'il faut vraiment aborder ce sujet avec deux prismes. Le premier, j'allais dire, il est assez conjoncturel. On ne peut pas dire que les prêtres d'Europe ont été déportés dans les camps, et surtout à Dachau, parce que prêtres catholiques. Ce serait sans doute un abus. Dans le cas des prêtres, j'allais dire, allemands, autrichiens, ce sont vraiment des gens qui sont internés pour des faits essentiellement de résistance politique, de dénonciation de l'oppression nazie. Ils se sont battus, donc je vous parlais du plan T4, ils se sont battus contre le plan T4, ils se sont battus contre les réformes du mariage, contre certaines lois raciales. Certains ont pris publiquement la parole pour prendre la défense des juifs. Voilà, donc allemands, autrichiens, j'allais dire résistants politiques, opposants politiques au régime nazi. Polonais, clairement, il y a une dimension raciste, anti-slave, et une dimension effectivement beaucoup plus politique qui vise une fois plus à décapiter les élites du peuple polonais, ce que les communistes font aussi à Katyn d'ailleurs, contre les officiers, c'est la même logique. Si on prend le cas des Français, qui sont le troisième contingent de déportés par nationalité à Dachau, il y a à peu près 150 Français à Dachau, l'essentiel a été déporté pour des faits de résistance dans les maquis, dans les réseaux d'évasion d'aviateurs ou de juifs. Voilà, donc c'est vraiment, la typologie est assez complexe, mais ceci dit, et j'en arrive à mon deuxième prisme, il y a fondamentalement, depuis le début, depuis les racines, les origines du national-socialisme, un antichristianisme incontestable et qui va chercher très loin. Sans vouloir le caricaturer, on retrouve évidemment des choses dans les écrits de Nietzsche qui ne supportent pas l'attention accordée par les chrétiens à la victime, à l'individu. Et on trouve des choses beaucoup plus proches, j'allais dire parfois assez délirantes d'ailleurs, dans les écrits de Rosenberg du XXe siècle où il explique que le Christ est un héros arien venu du nord de l'Europe. Mais qu'il a été judaïsé par Saint Paul. Enfin, il y a des choses complètement grotesques, j'allais dire. On trouve aussi des choses extrêmement violentes dans les discours de Himmler et également des choses sidérantes dans les discours de Goebbels ou dans son journal personnel. Et d'ailleurs, on trouve des choses assez contemporaines. C'est très étonnant. On voit que Goebbels monte des campagnes de dénonciation des prêtres catholiques déjà en 1936, 37, 38 pour faire courir la rumeur selon laquelle ils seraient tous des dévergondés impliqués dans des affaires, ce qu'on appelle aujourd'hui de pédophilie, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais ce sont à peu près les mêmes ficelles, j'allais dire, qui étaient déployées à l'époque, dont on peut retrouver certaines aujourd'hui.
Très concrètement, la vie d'un prêtre catholique dans un camp nazi, à quoi ressemble-t-elle?
Eh bien, c'est celle de tous leurs camarades déportés, j'allais dire. C'est une vie dans ce qu'on appelle des blocs, donc les fameuses baraques. Ce livre s'appelle La baraque des prêtres parce que le nom est resté un petit peu dans l'histoire, mais en fait, il y en a eu deux, voire trois par moment, les baraques 26, 28 et 30 à Dachau. Et dans ces baraques, eh bien, ces prêtres venus de toute l'Europe s'entassent dans des conditions vraiment extrêmement difficiles, parfois abominables en fonction des circonstances, de l'afflux d'autres déportés, des maladies qui peuvent circuler, des mesures de rétorsion prises par l'autorité SS ou par les capots. Donc ils ont cette vie quotidienne qui ressemble vraiment à celle des autres, marquée par des travaux épuisants dans ce qu'on appelle les commandos, marquée par la faim qui peut prendre des proportions insupportables, notamment en 1942 où on les voit comme leurs camarades aller essayer de ramasser quelques limaces après la pluie puits pour se nourrir ou manger des graines desséchées qui peuvent se trouver au sol. Donc voilà, vraiment, cette vie est comparable aux autres. C'est le tableau que je voudrais brosser de façon globale.
Vous évoquez quand même quelques nuances hein, dans votre livre.
Des nuances avec, j'allais dire, quelques avantages. Il n'y a pas d'autre mot, même si parler d'avantages dans l'univers concentrationnaire, c'est quelque chose d'un petit peu cynique. Et il y a des persécutions spécifiques. Les avantages, le premier, j'allais dire, c'est qu'il y a une période, qui ne dure que quelques mois, pendant laquelle les prêtres sont dispensés de travail dans les commandos. Donc là, ils restent dans leur baraque, ce qui est un peu plus supportable comme condition, et du coup la faim se fait moins prenante puisqu'ils ont moins d'efforts physiques à faire. Deuxième avantage, mais qui est partagé aussi par certains de leurs camarades, ils reçoivent des colis, bon, de façon aléatoire d'ailleurs, mais par exemple sur la dernière phase de la guerre, nombre de prêtres allemands et même français reçoivent des colis, ainsi que des colis envoyés par la Croix-Rouge. Mais là aussi, pour le coup, certains de leurs camarades bénéficiaient de tels avantages. Le véritable avantage de ces prêtres, la situation particulière, il est double. Un, dans la baraque 26, ils ont eu le droit d'aménager une chapelle à laquelle ils avaient accès, dans laquelle ils pouvaient dire la messe dans des conditions extrêmement strictes et surveillées. Mais ils avaient cette chapelle qui, à la fin de la guerre, ressemblera à toutes les chapelles du monde et même à certaines des plus belles puisqu'on pourrait y dire des messes pontificales. On y célébrera de nombreux offices avec la pompe qui convient. Donc il faut imaginer le tableau de ces prêtres en pyjama rayé ou dans des oripeaux assistant à la messe accompagnés d'un environnement qui était devenu finalement beau, presque artistique. Il y avait un espèce de paradoxe absolu. Et le deuxième avantage, j'allais dire, c'est qu'ils sont regroupés entre eux. Ils ne sont pas isolés, comme beaucoup de déportés qui se retrouvent plongés dans l'univers concentrationnaire sans avoir d'amis, de connaissances, de relations en commun. Eux, ils se connaissent forcément, mais surtout, évidemment, ils partagent une foi en commun, un ministère en commun, et ça crée beaucoup d'affinités. Enfin, si on peut parler d'un avantage, ils ont aussi la chance d'être structurés, puisqu'ils vont reproduire l'organisation ecclésiale à l'intérieur du camp. Les évêques qui sont déportés ont évidemment autorité sur leurs camarades. Les jésuites vont quasiment organiser une petite province à l'intérieur de Dachau. Et le camp sera même érigé au rang de doyenné, ce qui est totalement unique dans l'histoire de l'Église, par l'archevêque de Munich.